Bien le bonjour à tous et bienvenue pour Déchiffrer des films, émission 2. Bonjour Colin.
Bonjour Sébastien.
Comment vas-tu?
Eh bien ça va très bien, merci, et toi?
Bah très très bien, passé de bonnes vacances. Bon, c'est un peu... l'été finit depuis un petit moment, mais...
Je suis pas allé à la plage justement parce que je préparais cette émission et j'avais pas envie, non c'est pas vrai.
Tu commences déjà à spoiler l'émission.
Voilà, je donne des indices.
En tout cas, nous sommes contents d'être ici tous les deux, à vous parler de films, à vous partager notre passion. Et puis si vous êtes aujourd'hui présent, c'est que les notions de chiffres et de box-office ne vous font décidément pas peur. Et de ce fait, nous allons tout de suite poursuivre notre aventure dans les sillons du box-office, non pas en vous parlant d'un échec, mais cette fois-ci d'un succès commercial. Et j'en profite, Colin, peux-tu nous définir ce qu'est pour toi un film portant l'étiquette de succès commercial?
Ah bah, je pense que c'est un film qui ramène du monde, pour faire court. C'est un film qui rapporte énormément d'argent au studio, beaucoup plus que ce qu'il a coûté. Alors je pense que toi tu as les chiffres que tu vas nous faire parvenir sur les succès des Dents de la Mer, c'est un film qui dépasse même les attentes d'un studio en termes de chiffres, et qui même pour certains cas de films deviennent des phénomènes à la fois de commercial et de société, ce qui va être le cas de le film dont on va parler.
Alors exactement, parce que pour illustrer nos propos, nous allons rester avec un réalisateur que nous admirons tout particulièrement, un homme que finalement peu de gens connaissent et qui n'a pas forcément fait de film à grande renommée. Hein.
Non, bah on essaie de le faire connaître, le pauvre, si on parle pas de lui, qui le fera, quoi.
Un certain Steven Spielberg. Pour le coup, je te propose de monter à bord de notre DeLorean personnel, si tu le veux bien, et remontons le temps jusqu'aux années 70. Et la question que nous pouvons dès lors nous poser, à cette époque, qui est Steven Spielberg?
Steven Spielberg, à ce moment-là, donc le film sort en 75.
Oui, exactement.
Voilà. Et donc à ce moment-là, Spielberg, c'est un réalisateur qui commence à bien se faire connaître à Hollywood, mais qui n'est pas encore la star, le réalisateur star qui va devenir... à partir des Dents de la Mer, en fait, et qui est le film qui va moins lancer. Donc à ce moment-là, Spielberg, qu'est-ce qu'il a fait à son actif? Il a tourné beaucoup autour des studios pour en réalisant beaucoup de plusieurs, en tout cas, épisodes de séries télé de l'époque.
Dont Columbo.
Donc Columbo, c'est-à-dire le premier épisode produit de la série, parce qu'il y a eu deux pilotes avant lui. Mais Spielberg aime bien dire que c'est lui qui a fait le tout premier Columbo, mais Spielberg aime bien enjoliver les choses. Ça, c'est un truc que Spielberg aime bien faire.
Mais il s'est surtout fait connaître en 1971 avec non pas un long métrage de cinéma, bien qu'on peut balancer une petite nuance sur le sujet, mais le fameux Duel.
Duel, ouais. Alors Duel, c'est pour la télé. Hein.
Exactement.
C'est le cadre d'un programme audiovisuel où à chaque un peu d'anthologie en fait, où chaque semaine il y a une histoire différente.
Un peu quatrième dimension, voilà. Mais un peu plus terre à terre.
Oui, c'est ça. Et dans le même style de production que Columbo aussi. C'est Columbo, c'est
une enquête.
C'était une enquête et qui avait la taille d'un film. Hein. Columbo, c'était duré 1h15, 1h30 en moyenne. Et ce qui permettait d'avoir peu d'épisodes produits. Il y avait 7-8 épisodes par saison Columbo seulement, parce que c'était produit comme quand même. On essayait de les produire quand même comme des longs métrages. Et Duel avait cette même logique de production. Voilà. Donc c'est un produit télé, sauf que le film déjà va cartonner à la télévision.
Il faut rappeler qu'il a été diffusé du coup la première fois en 1971,
oui.
Et qu'il est passé au Festival d'Avoriaz.
Oui, c'est le premier Grand Prix du Festival d'Avoriaz, pour le premier festival. Et le film du coup va avoir sa renommée à ce moment-là, et du coup il va avoir une sortie salle. C'est pour ça du coup c'est très compliqué de savoir quel est le premier film de Steven Spielberg. Ça c'est un long débat, un débat de cinéphile qu'on peut avoir tout selon ce qu'on considère comme critère de premier film, parce que Duel est un long métrage, mais c'est même pas si on parle de Columbo son Columbo dure 1h30, son Columbo a aussi un format long métrage, donc quelque part c'est un peu comme Duel, sauf que son Columbo n'est pas sorti au cinéma comme Duel le fera. Donc mais entre temps il va réaliser aussi un film qui va sortir la même année que la sortie cinéma de Duel, Sugarland Express,
qui sera pour le coup son premier long métrage, sa première production cinématographique.
C'est ça, qui produit vraiment dans un objectif de sortie en salle. Voilà. Mais aussi, son premier film peut être aussi un film qui s'appelle Firefly, qui est un film qu'il a autoproduit avant, qui commence à rentrer dans les studios.
Firelight,
pardon. Pas Firefly, c'est autre chose. C'est
une série.
C'est une série avec Nathan Fillon, oui.
Et pas la même époque.
Voilà,
hein.
Firelight, merci de la correction. Et donc, c'est un film autoproduit où il y a des gens de sa famille qui jouent dedans, qui sont à la technique. Enfin, c'est un film, voilà. Mais c'est un long métrage. Donc, voilà. Décider quel est le premier long métrage de Spielberg, c'est un peu compliqué.
Mais jusque-là, en termes de grand public, ce n'est pas quelqu'un de très connu.
Non,
c'est juste, en effet, peut-être quand on voit la qualité de Duel, un bon faiseur, un bon artisan. C'est mais ça s'arrête là, Spielberg.
C'est ça. Et puis, il a appelé aux dents de la mer pour cette raison, en fait, pour être quelqu'un d'extrêmement efficace parce qu'il a réussi à. Il a réalisé Duel en 10 jours. Et donc il s'est fait une réputation au sein des studios d'être quelqu'un de très efficace, et donc il est embauché pour faire Les Dents de la Merde pour cette raison, en fait, pour gérer un projet aussi compliqué que Les Dents de la Merde. On s'est dit que c'était sûrement la bonne personne à appeler, voilà.
Et c'est ainsi que sort en 1975 Jaws. Hein, on va quand même dire le titre en version originale.
Oui,
Jaws,
oui,
mâchoire.
J'aime bien le titre français.
Mais c'est pour ça, pour rester à nos racines françaises, les dents de la mer.
Il est poétique, ce titre français, les dents de la mer. C'est très imagé, mais j'aime bien.
Qui, pour le rappel, est l'adaptation d'un roman.
Oui, tout à fait.
De l'auteur Peter Benchley, qui a été un succès en 1974, donc un an avant la sortie du film.
Oui, parce que du coup, le film a eu un énorme succès, et du coup, on dit que le film est un peu le premier blockbuster moderne, c'est ce qu'on dit, parce qu'il se base vraiment sur une étude de marché, sur ce que les gens voulaient voir à ce moment-là. Le livre ayant eu un gros succès dans les études de marché, on a vu que les gens voulaient voir un film qui se passait en période estivale sur une plage. Voilà, il y a eu plein de critères qui sont faits, des cases à cocher, si vous voulez, pour que le film ait du succès. Et c'est un peu le premier film qui a eu cette méthode de production qui aujourd'hui est la norme à Hollywood.
Parce que j'allais te dire, ouais, c'est Netflix avant l'heure, en fait, là.
Oui,
les algorithmes de l'époque.
Bah oui, mais en fait, c'est une logique qui a explosé surtout dans les années 80, où le libéralisme économique s'est emparé un peu sur tous les domaines, l'époque Reagan, hein, donc là on est un petit peu avant, mais on prépare le terrain, quoi.
Bon, je pense que tout le monde connaît le film, hein, étant donné qu'on parle quand même d'une œuvre intemporelle. Mais Colin, peux-tu nous présenter le film pour les auditeurs qui ne l'auraient jamais vu?
Et pour ceux qui n'ont pas encore vu Les Dents de la Mer, le film se passe sur une station balnéaire aux États-Unis, sur une île,
oui.
Voilà,
Amity,
qui est réputée pour ses belles plages, parce qu'il y a un requin blanc qui. qui vient semer le trouble sur la plage, d'abord en s'attaquant à une jeune fille qui se baigne toute nue au début du film. Qui est visible dès l'affiche, on peut en parler parce que moi je trouve que c'est un film qui commence à amorcer déjà la fin du nouvel Hollywood et de la période un peu hippie, juste avec cette première scène. Moi, je trouve qu'on peut la voir comme ça. Moi, j'aime bien le voir comme ça, en tout cas.
Pas faux, parce qu'il faut le dire, bien sûr, que cette fille toute nue est une hippie. Le film, il démarre justement pas proprement parler sur le groupe, parce qu'on a quand même le générique avec la vue du requin.
C'est ça.
Mais on va chez ce groupe de hippies qui sont en train de fumer, de passer du bon temps avec la musique.
Et voilà, et il court sur la plage avec son petit ami, ou en tout cas une rencontre du soir. Mmh. Ils enlèvent leurs vêtements. Lui est trop bourré, fatigué. Il reste sur le bas-côté de la plage.
Comme quoi, c'est
elle
bon d'être bourré, des fois.
et donc, cette première victime est retrouvée, et enfin est d'abord portée disparue et ensuite retrouvée
en morceaux.
Donc ça inquiète énormément le shérif Brody, qui
joué par Roy Scheider,
l'excellent Roy Scheider, que je trouve qu'on ne parle pas assez. Je trouve que c'est vraiment un excellent comédien dont on parle pas assez, tout simplement, et qui s'inquiète beaucoup, qui demande à ce qu'on ferme les plages auprès du maire de la ville, parce que arrivent les pleines périodes estivales et surtout
la fête nationale
américaine, qui voilà, il sait très bien que si on ferme les plages, ça va être une catastrophe économique pour l'île. Donc lui, le maire de la ville est pas chaud du tout.
Un problème qui se présente, va falloir quand même s'en occuper, donc on va essayer de faire ça assez rapidement, hein. On met les moyens, et dès qu'il y a une solution qui se présente, on va pas trop spoiler non plus, mais il y a une solution qui se présente, dire bah c'est bon, le problème est réglé.
Et en fait non,
pas du tout.
Et donc le film, voilà, la terreur va vraiment commencer à ce moment-là, où il va être soutenu, où Sheriff Brody va être soutenu par par un océanographe joué par Richard Dreyfuss, qui seront accompagnés plus tard par Quint, un chasseur de requins qui va aller aider ensuite à trouver et tuer le requin.
Interprété voilà. par Robert Shaw.
Ouais, qui est l'excellent Robert Shaw aussi. C'est le casting est excellent.
Parfait.
Voilà. Et voilà, c'est un film culte, c'est un film qui est passionnant sur plein de points, qui a une maîtrise du suspense, de l'image parfaite, qui sait aussi très bien gérer un côté aventure, qui sait aussi à un moment donné se recentrer sur ses personnages. Tous les personnages sont vraiment extrêmement attachants. Et voilà, on n'est pas sur juste le film de monstre où les personnages servent juste de faire valoir et servent juste de déjeuner à la grosse bestiole que les spectateurs seraient venus voir. Non, c'est vraiment, on a vraiment des vraies personnalités qui se développent. On peut parler du fameux monologue de Robert Shaw dans le bateau.
Qui était improvisé, il me semble. Écrit par lui-même, mais c'était pas.
Elle était coécrite par John Milius, qui a réalisé Conan le Barbare. Mm-hmm. Elle n'était pas vraiment improvisée. C'est juste que c'est Spielberg qui s'est dit il manque un truc, il faut qu'un gros moment sur lui. C'est Spielberg qui a eu l'idée de ça d'un monologue et il appelle John Milius pour qu'il écrive le monologue. Ensuite, le monologue sera réécrit par le scénariste du film et du coup, le monologue est un mélange entre le scénariste de Jaws et de Milius. Voilà. Et ce qui donne presque un. Une parenthèse dans le temps, dans le film, à ce moment-là, où on a eu une petite pause avant le film, où ça se relâche un peu, et l'horreur revient à ce moment-là, juste dans les paroles, et juste dans le risque qu'ils prennent en chassant ce requin, quoi. Et la terreur se place vraiment dans les bons moments, et voilà, je trouve que c'est un film qui est parfaitement maîtrisé de bout en bout, c'est peut-être... Très bateau de dire ça aujourd'hui parce que le film est tellement culte. Et
mais j'aime bien le jeu de mots que tu viens de
faire. Très bateau. Voilà, il faudra peut-être un plus gros bateau pour en parler. Mais,
mais voilà. Cette phrase culte aussi. Mais vous l'aurez compris, Les Dents de la Mer, quand même sur le papier, c'est quand même un film d'horreur classique. Un film de monstre dans les règles de l'art. Bon, film de monstre. On peut dire film d'animaux tueurs, si on chipote un peu, parce qu'on n'a pas affaire à un extraterrestre ou autre. Mais on va quand même entrer dans les chiffres, hein. C'est quand même du sujet de l'émission. Un titre qui aura coûté 7 millions de dollars et qui en aura rapporté plus de 476 millions à travers le monde.
C'est énorme.
Dont près de 266 millions rien qu'aux États-Unis. Rien qu'avec ça, nous pouvons bien évidemment parler de succès commercial sans problème.
Je pense que là, en termes d'attente des studios, on est pas mal là.
Je te propose de nager en profondeur et d'aller pêcher un tout nouveau terme qui est l'inflation. Et pour l'exemple, du coup, le film, on va revenir sur son budget de 7 millions en 75, ce qui aujourd'hui équivaut à 40 millions. Il y a une belle marge d'un seul coup. Et donc, pour remettre les pendules à l'heure, faites donc le calcul et devinez à combien seraient Les Dents de la Mer de nos jours en termes de box-office. Allez, devinez un peu. Eh bien, il serait à la bagatelle de 2,7 milliards de dollars.
Effectivement, c'est énorme.
Un score qui talonnerait le premier Avatar et Avengers Endgame aujourd'hui.
Donc, qui serait fait partie des très gros succès.
De tous les temps.
De tous les temps, ouais.
Exactement. Ouais. Donc oui, Les Dents de la Mer est le parfait exemple pour notre émission du jour, pour parler de succès commercial, et nous allons tenter de découvrir pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ce film est devenu le succès que tout le monde connaît ? Bon, déjà, il est bon de revenir sur la production du film, je trouve, apporte un peu d'eau à notre moulin, car sur le papier, on peut quand même s'avancer sur le fait que Les Dents de la Mer, malgré le succès du livre, personnellement, avec du recul, c'est pour moi un film qui n'était pas prédestiné à cartonner autant. Parce que le film, outre son succès, sa qualité, et ça on reviendra aussi après, c'est quand même un film qui a été marqué par sa production et son tournage.
Ah oui, oui.
Plutôt chaotique.
Complètement. C'est-à-dire que c'est parti de ces tournages de films qui sont tout aussi intéressants que le film, en fait.
C'est toute une aventure, ça peut être une fiction par moment, mais non, c'est la réalité.
Quand tu parles, Spielberg, il dit, quand on lui parle des Dents de la Mer, le souvenir qui lui vient, c'est des... Voilà.
C'est l'eczéma qui lui vient, là.
Alors, il dit, c'est une expérience géniale, Il a vraiment détesté ce tournage, ça a été extrêmement difficile pour lui, il a détesté ce requin, il a dit la haine qu'il avait pour ce requin, et en même temps il dit je suis obligé de lui dire merci, parce qu'on lui doit quand même le succès, mais qu'est-ce que j'ai détesté, il dit en interview.
Alors je sais pas si c'était en rapport à ça, mais bien sûr, la marionnette, le robot qui avait été utilisé pour le tournage pour le requin, il avait quand même un surnom, c'était Bruce,
ouais.
qui était le prénom, je crois, de son avocat.
Exactement.
Et Spielberg a des problèmes. Je ne sais pas si c'est péjoratif. Enfin, si c'est peut-être péjoratif pour son avocat.
Oui, parce que de toute façon, je pense que Spielberg a des problèmes, a des soucis avec les avocats.
Jurassic Park, il fait une référence.
Voilà. peut-être lié au divorce de ses parents, je ne sais pas.
Et donc, pourquoi ça a été un cauchemar?
Alors.
Parce que déjà, il faut dire, c'est un tournage en pleine mer.
Oui, et puis voilà, faut dire aussi que l'idée quand même était très ambitieuse, hein, déjà pour commencer.
Oui, en termes d'effets spéciaux aussi.
Exactement, c'est-à-dire que au moment où il y a le bouquin qui a fait un succès, donc l'envie de l'adapter, mais quand les gens lisaient le bouquin. Je crois que c'est David Zanuck qui dit mais en fait n'importe qui d'expérimenté en production te dirait que c'est impossible à faire.
David Zanuck qui est producteur.
Voilà, qui est producteur et qui fait partie de ceux qui sont vraiment derrière le projet au départ. Et en termes de production, c'est vraiment incroyable. Rush Schneider disait, moi j'ai eu envie de faire le film parce que j'entendais des gens discuter en disant oui. Il y aura un requin qui montera sur un bateau. Je me dis, mais comment ils vont pouvoir faire pour mettre un requin sur un bateau? C'est des fous. Donc le projet est très très ambitieux et paraît extrêmement difficilement réalisable. Je rappelle, on est en 75. De quelle façon on peut montrer un requin réaliste sortir de l'eau et tout avec les moyens qu'on a à l'époque? C'est très compliqué. On n'a pas de CGI à ce moment-là. Aujourd'hui, ça paraît très très simple de faire apparaître des grosses bestioles à l'écran avec les CGI. Aujourd'hui, les possibilités sont énormes.
Il y avait une autre solution, je pense, qui était l'incrustation. De coller une image animée peut-être en stop motion ou autre et de le coller après sur le montage final, mais je pense quand même qu'ils ont voulu avoir un requin qui soit palpable, qui soit présent à l'écran, que la terreur soit palpable justement, et ils se sont tournés vers la solution qui était pas la plus simple mais la plus évidente pour le coup, qui était le robot,
l'animatronique. Sauf qu'un animatronique en pleine mer,
On n'avait pas les mêmes techniques en termes d'étanchéité.
Le sel abîme énormément le mécanisme.
Parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas qu'un requin. Il y a le requin qui animait tout, mais il y a toute une histoire de treuil, de rail au fond de l'eau pour permettre au requin de se mouvoir.
Complètement. Ce qui est rigolo, c'est d'entendre les témoignages des comédiens sur le tournage, notamment de Richard Dreyfuss, qui disait, mais on a passé énormément de temps à attendre. Il dit, moi, je me rappelle toujours, c'était rigolo. On entendait tous les jours des talkie-walkie en disant, le requin fonctionne pas, le requin ne fonctionne pas, je répète. Et il disait, ils ont passé énormément de temps à attendre que le requin fonctionne parce que oui, le requin coulait. À un moment donné, ils ont dû appeler des hommes grenouilles pour pouvoir le chercher tout au fond de l'eau parce qu'il avait littéralement coulé complètement. Et donc c'était une catastrophe.
Et parfois en pleine séquence, il pouvait fonctionner, d'un seul coup, s'arrêtait net à cause de l'eau, du sel, parce qu'il commençait à trembler, à ne plus faire ce qu'il était prévu de faire.
Il marchait très très mal. Voilà, il marchait vraiment pas et c'était une. C'était une galère infinie pour Spielberg.
Et c'est devenu justement Spielberg, avec sa malice et son talent, il en a fait la force du film parce qu'au final, il avait, je pense, beaucoup de plans du requin qui ne fonctionnaient pas. Et bien, il a décidé d'en faire une terreur hors champ, la première grosse partie du film. C'est-à-dire que le requin, on ne le voit pas.
Oui, c'est ça. Le requin, on doit apparaître à silhouette de temps en temps rapidement, mais on le voit vraiment au bout d'une heure et quart de film.
Deux heures.
Voilà, donc à partir du moment où ils vont le chasser, où ils partent le chasser. Donc c'est-à-dire que quand il fait ses premières attaques, le requin n'est quasiment jamais filmé. Et pourtant, tu ressens absolument sa présence. Sa dangerosité et ça juste par la force de mise en scène de Spielberg, sa précision à toute la scène de la première scène de la plage où il va y avoir
pour la deuxième attaque
la deuxième attaque après la scène d'intro donc où il va y avoir malheureusement un drame sur cette plage, et ça c'est même assez choquant, hein, parce que c'est dans les films d'horreur, tu vois pas souvent des enfants mourir. Même Spielberg, c'est pas une habitude qu'il va avoir en règle générale.
Non, d'ailleurs. Mais je pense qu'il avait voulu déjà déjouer les attentes. Ouais. Parce qu'on s'attendait tous forcément que ce soit un adulte. Là, il commence quand même les victimes de cette attaque de plage. C'est quand même deux êtres qu'on n'a pas l'habitude de voir mourir. Un animal, donc un chien, et un enfant. Très jeune.
Ouais. Et que voilà, bah, et alors si l'enfant, on comprend qu'il se fait attaquer, le chien, c'est juste par du jeu de montage qu'on comprend Exactement. Que le chien est mort et c'est parfait, ça te terrifie directement.
Ah oui, la scène de l'enfant, voilà. elle est quand même crue. Hein,
je veux dire, la scène de l'enfant, voilà, la caméra s'approche de lui, puis voilà, on voit aussi l'enfant en train de se faire dévorer. Hein, mais rapidement, c'est-à-dire que c'est tout pareil, c'est toujours très malin et on comprend que c'est complètement fini quand il y a son matelas gonflable.
Exactement, justement, tout le monde est revenu de l'eau, tout le monde est sur la plage paniqué, et là on voit sa mère
qu'il cherche
en panique à dire son nom, Alex, Alex, et on ne le voit jamais arriver, et le dernier plan de cette plage, c'est comme tu dis, le canot pneumatique dégonflé en sang.
En sang, voilà, et on comprend tout de suite, et donc ouais, c'est une mise en scène très, très Hitchcockienne, hein, c'est vraiment, hein, dans de la mer, il y a vraiment la grammaire d'Hitchcock qui est
le fameux zoom sur Roy Scheider à
le
ce moment-là.
Le travelling compensé, qui est un plan inventé par Hitchcock dans Vertigo, et ouais, qui est utilisé, qui est peut-être une de ses utilisations les plus célèbres avec Vertigo, je pense, du travelling compensé. Il est très malin de ce plan parce que je trouve que le shérif, c'est aussi. Alors, on est aussi dans les héros des années 70 où les héros, les shérifs, sont pas forcément des gros bras armés, sont des gens plutôt très humains qui ont beaucoup de sensibilité, de faiblesse humaine, mais qui les rend du coup très attachants. Et Roy Scheider, le shérif Brody s'inscrit dans ces personnages des années 70, je trouve. Donc, un personnage qui, certes, est le shérif et le héros, mais il a peur de l'eau. Et il a une peur terrible de ce requin, vraiment. C'est-à-dire que quand il est en surveillance sur la plage, on lui parle. La caméra est absolument géniale là-dessus, où nous-mêmes, on est de son point de vue et on est comme lui.
En train de surveiller ce
gars qui nous parle, il nous saoule. Et on est là, non, mais attends, mais moi aussi, je veux voir s'il y a le requin qui arrive. Attends, et on est vraiment attaché à lui là-dessus. Et on sent beaucoup d'angoisse. Il apprend à affronter ses angoisses au fur et à mesure du film. Le spectateur est en partie identifié à lui. Je trouve qu'il représente un peu mal aussi le spectateur. Je trouve que Richard Dreyfuss, je retrouve beaucoup de Spielberg dans le personnage de Richard Dreyfuss. D'ailleurs, il l'a souvent dit que Richard Dreyfuss, pour lui, il le voyait un peu comme un alter ego. Il a joué dans 3 de ses films, si je ne me trompe pas.
Rencontre du troisième type et Always.
Et Always, voilà. Et c'est vrai, je pense qu'il y a une filiation entre Richard Dreyfuss et Spielberg, et moi je le vois comme ça, ce gars-là qui arrive pour essayer de prendre l'affaire en main, cet océanographe, et qui voilà, lui connaît le métier, connaît le truc, mais encore jeune et pas très pris au sérieux. Moi je veux jouer un peu de Spielberg là-dedans, et donc Roy Scheider, et je trouve, représente un peu le spectateur qui plonge dans cet univers, et Richard Dreyfuss reprend un peu Spielberg, qui va nous aider à accompagner et à surmonter nous-mêmes la peur qu'on est en train de voir avec ce requin, avec quelqu'un qui les connaît un peu mieux. Voilà, il nous accompagne là-dessus. Voilà.
Et du coup, pour toi, Robert Shaw, enfin le personnage de Quint, ça serait qui?
Moi, dans ma théorie, je le vois un petit peu comme un technicien, parce que je sais que Spielberg, dans ses débuts de carrière, il a eu beaucoup de soucis avec des techniciens sur les tournages, notamment dû à son jeune âge, notamment sur le Colombo. Il s'est gravement engueulé avec le chef-op de l'épisode, qui était un vieux de la vieille, parce que Spielberg, il voulait absolument filmer devant des grandes baies vitrées, et le chef-op disait mais non, mais pour la lumière, moi c'est une catastrophe, je refuse de faire ça, et Spielberg insistait là-dessus en disant que c'était possible et tout, et donc voilà, il y avait beaucoup d'engueulades là-dessus, donc moi je le vois un peu comme ça, comme le gars qui connaît aussi extrêmement bien le terrain, mais depuis bien plus longtemps que lui, donc il y a forcément des disputes qui se font, mais au final ils partagent la même passion, et c'est pour ça qu'il y a des rapprochements là-dessus. Moi j'aime bien le voir comme ça, Quint, voilà.
Thank you.
Et je pense que vous l'aurez compris que l'un des points qui fait que Les Dents de la Mer a été un succès immense, et on en parle depuis le début de l'émission quand même, c'est sa qualité.
Bah oui.
Parce que, outre l'aspect terreur, et d'ailleurs on ne l'a pas précisé, l'aspect terreur qu'on doit également à la musique de John Williams.
Ouais.
Avec deux notes.
Oui, et puis d'ailleurs, Spielberg, la première fois qu'il l'entend, il lui dit
Tu te fous de moi.
Ouais. il croyait qu'il lui faisait une blague, en fait, au départ même.
Préciser aussi que c'est de leur, si je ne dis pas de bêtises, leur deuxième collaboration, parce que John Williams était sur la bande originale de Sugarland Express déjà.
C'est ça, exactement. Il n'était pas sur Duel, mais il était sur, ouais, il s'était rencontré sur Sugarland Express, et Spielberg avait dit, quand il l'a rencontré sur Sugarland Express, toi, je veux que tu bosses, que tu fasses la musique de tous mes films. Ce qui sera quasiment le cas, d'ailleurs, à quelques exceptions près, mais
ce sont de grands copains.
Mais voilà.
Grands collaborateurs de grands copains, bah, si je peux le dire le mot.
On est obligé de les associer, John Williams et Spielberg, ça va ensemble.
Comme dans un autre style, Tim Burton et Danny Elfman.
Exactement.
Mais autre l'aspect technique, la maîtrise de Spielberg, c'est aussi l'aspect humain. Parce que, ok, on peut se moquer, je disais tout à l'heure que okay, c'est le film d'horreur classique, le film de monstre, mais rarement j'ai vu un film de monstre avec des personnages aussi attachants, aussi bien joués, aussi humains. Tu parlais de la scène de Robert Shaw, justement, de Quint, quand il fait son monologue, parce que c'est un personnage détestable, en tout point, c'est Monsieur Je sais tout, c'est Monsieur oui. J'aime bien rabaisser justement le personnage de Richard Dreyfuss, et c'est son moment d'humanité de tout le film, et c'est à ce moment-là, moi, personnellement, où je m'attache à lui, justement.
Oui, complètement, bah oui, parce que j'aime bien ces persos-là qui montrent une certaine image d'eux-mêmes, mais qui est une sorte de carapace, en fait, pour montrer des gens, en fait, bien plus sensibles qu'ils le sont, qu'ils le montrent, en tout cas.
Et encore une scène bien humaine que j'aime beaucoup, c'est aussi la scène de Roy Schneider avec son fils. Quand ils sont à table.
Je m'en souvenais plus, je l'ai revu. Là, j'ai revu le film juste avant de faire l'émission. Je me souvenais plus de cette scène. Et je l'ai trouvé magique, cette scène. Bon, voilà, c'est tout simple. Hein. Mais qu'est-ce que ça dit sur les persos? C'est beau. Ça le rend ultra humain, Roy Schneider. C'est juste un père de famille. Qui veut essayer de protéger de la petite île dans laquelle il a débarqué lui-même il n'y a pas très longtemps, parce qu'il est arrivé il n'y a pas très longtemps dans
c'est
le
ça.
Film.
Il est de New York à la base.
Voilà, c'est ça. Il vient de New York. Il y a une réplique dans le film qui est cool, où il dit moi j'ai fui New York parce que à New York on trouve des criminels partout, etc. Et au final l'horreur revient, et en fait j'aime bien ça parce que ça montre que la criminalité elle peut prendre plusieurs formes, et que quelque part le maire il a beaucoup de sang sur les mains. Mmh. et de façon très différente, en fait. Donc certes il y a un taux de criminalité très faible dans la ville, mais l'horreur et la terreur humaine peut prendre aussi différentes formes, et c'est ce qu'on voit avec l'attitude du maire. Qui va causer des victimes, vraiment, que son sens. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, il y aurait des personnes en vie, tout simplement.
Et aussi pour le travail de Roy Schneider, le temps de cette scène, et aussi par rapport à la relation avec ses gamins, parce qu'il a deux enfants dans le film. On sent déjà que, bien sûr, une des thématiques propres à Spielberg, c'est la relation avec le père. Parce qu'autrement, c'est vite fait montré dans le film, mais faut savoir que dans le livre, le personnage de Schneider est alcoolique.
Oui, c'est un peu exploré dans le deuxième film, d'ailleurs.
Plutôt, oui. Mm. Dans le premier, il y a quelques plans où on le voit se servir, par exemple, un verre de vin plus...
Très, très drôle, cette scène.
un plus grand verre que les autres, ou alors tu le vois sur le bateau juste après, avec Richard Dreyfuss, la bouteille à la main. C'est pas une thématique qu'il a voulu grandement explorer, plus le côté paternel à ce moment-là.
Mais il y avait une histoire d'adultère aussi dans le bouquin. Il y avait beaucoup, beaucoup plus de choses autour de la famille Brody, qu'il a largement simplifié. C'est rigolo parce que ce qu'il a supprimé, c'est des thématiques que Spielberg a pu traiter plus tard. L'adultère, par exemple. Alors l'alcoolisme, moins quand même, mais c'est rigolo parce que. C'est assez différent. Là, pour le coup, le père est vu positivement dans Les Dents de la Mer. L'image du père est bonne, mais c'est pas souvent chez Spielberg. L'image du père est soit le père est soit absent.
E.T.
Voilà, par exemple, soit problématique, soit.
Ou alors le cas du couple de parents qui divorcent, Jurassic Park.
Par
Les Dents de la Mer.
La guerre des mondes aussi.
La guerre des mondes.
Voilà. Ouais, donc avec des pères qui arrivent pas, qui ont beaucoup de mal à communiquer avec leurs enfants. Et là, c'est pas le cas. On a plutôt quelqu'un qui sait communiquer avec ses enfants là-dessus. Alors le 2 montrera, explorera plus ça bizarrement. Mais bon, c'est plus Spielberg n'est pas derrière, mais on reparlera des suites un peu plus tard, je pense. Mais oui, c'est très étrange là-dessus. Il n'y a pas vraiment toutes ces thématiques dans Les Dents de la Mer, par contre, tu vois. Je sens que c'est encore son début de carrière et qu'il est en train encore de chercher thématiquement, je pense.
Et quel début, hein.
Oui, alors non, mais par contre, c'est en termes de mise en scène et de maîtrise de l'image, tu sens que ce gars, je ne sais plus qui est le réalisateur, disait ça de Spielberg, mais que Spielberg, il a vraiment une caméra à la place des yeux. C'est un réalisateur qui disait ça, et j'ai oublié son nom, je ne sais plus qui c'était. Et c'est vrai, je trouve, c'est ce que tu ressens très vite quand tu regardes un film de Spielberg, en tout cas un très bon film de Spielberg. C'est vraiment, tu sens que son regard, c'est des regards de caméra, quoi, et que tout est... tout dans la grammaire cinématographique est précis, il parle avec... Et Spielberg fait partie de ces réalisateurs qui parlent avec des images, et c'est le sens du cinéma, après tout. Mais comme le faisait Hitchcock, enfin, comme le faisaient d'autres grands maîtres...
Des magiciens.
Voilà, des gens qui savent parler avec l'image, et dans de la mer, c'est vraiment ça. Alors, même si le film a d'excellents dialogues, hein, attention, mais beaucoup de moments sont dus que par la grammaire cinématographique de Spielberg. Et moi, je me suis toujours demandé, par contre, tu vois, à quoi aurait ressemblé le film si le requin marchait parfaitement? Je me suis toujours demandé quel film ce serait.
Alors ça, je ne pourrais pas te répondre parce que de base, comme on avait dit, le requin, on le voit peu parce que le robot ne fonctionnait pas, parce qu'il s'était prévu qu'on le voit plus que ça.
Bien sûr, on devait le voir beaucoup normalement.
Donc c'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'en le voyant plus, on aurait eu la même sensation de terreur qu'avec le film
Parce que tout le génie de Spielberg, il est là-dedans, de trouver des moyens de mise en scène de chercher de façon juste par l'image et la suggestion de faire peur. Et forcément, quand tu offres un truc sur un plateau d'argent, des fois, la créativité est moindre, quoi. Peut-être qu'il aurait trouvé des trucs incroyables pour filmer la bestiole dans tous les angles, hein, je ne sais pas. Il y a des films qui le font de cette façon et avec qui ça fonctionne. Je pense des films de la saga Alien, par exemple, qui montre beaucoup le film de Fincher qui montre beaucoup plus la bestiole par exemple ou de Cameron.
J'allais justement venir sur le fait que quand même la suggestion a un sacré pouvoir sur notre inconscient parce que justement j'allais citer le premier Alien où la créature on ne la voit pas tant que ça.
Elle est
très hors champ, très cachée. Hein.
C'est pour ça que j'ai pas dit le premier parce que le premier oui effectivement il a un peu la même logique.
Et le deux aussi on le voit beaucoup.
Ouais, on les voit. Dans les deux on les voit vraiment beaucoup. Donc je me suis toujours demandé à quoi aurait ressemblé le film si le requin marchait, quoi. Et est-ce que le film aurait eu le succès qu'il aurait eu? Est-ce que la carrière de Spielberg aurait décollé? Tu vois, juste par des erreurs techniques, tout un pan du cinéma hollywoodien est remis en question, quoi. Je pense que ça joue beaucoup, parce que je pense que la carrière de Spielberg a décollé grâce à l'ingéniosité de la mise en scène qu'il a trouvée sur Jaws. Et c'est là qu'on a vu le talent qu'il avait, en fait. L'instinct, parce que voilà, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup à l'instinct, Spielberg. Il déteste les tournages qui durent longtemps. Le tournage des Dents de la Mer a duré longtemps.
Le budget s'est vu augmenter aussi avec les retards.
Et donc Spielberg, plus un tournage est lent et plus Spielberg est moins efficace. Un film comme Hook, par exemple, que je l'ai revu récemment, c'est un film qui a vraiment beaucoup de problèmes. Et c'est un film qui a été tourné beaucoup trop longtemps, en fait. Le tournage s'est vraiment rallongé. Et au bout d'un moment, quand Spielberg tourne trop, il se perd vite. Et voilà, Spielberg est très bon dans la rapidité. Et c'était en partie pour ça, je pense, qu'on l'avait engagé. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement efficace. Pour trouver des solutions, il te trouve un truc, quoi. Il te trouve un truc et pas un cache-misère, une vraie idée de cinéma. Ok, on peut pas avoir ce moment de cinéma-là avec le monstre qui arrive en gros plan. Bon, on va trouver plein de moyens pour que cette terreur et ce moment de cinéma existent. Et il parlait notamment de la scène avec les tonneaux. Que le requin arrivait à exister.
Pour ceux qui n'auraient pas vu la scène des tonneaux, justement, c'est que là, c'est une technique de pêche, le requin. C'est qu'on on harponne le requin, la corde est reliée justement à un baril. Un baril qui est fait d'air, enfin là-dedans, c'est de l'air. Et du coup, normalement, ça doit immobiliser le requin parce que le baril est très lourd et il flotte comme un bouchon. Sauf qu'à un moment pendant le film, ça, c'était une des techniques justement pour pallier au problème du robot. Le fait que t'aies le baril, c'était la présence du requin. Le requin était là.
Voilà.
Et bon, pour dire aussi de l'anecdote, parce qu'on n'a pas affaire bien sûr à un petit requin, parce que là, un baril, ça doit mettre un requin un peu chaos, une entière 3 le bousin quand même.
Hein. Oui.
Et c'est pas suffisant encore.
Oui, on est quand même sur un requin de cinéma. Hein. Je sais pas si ce requin-là existerait vraiment. Voilà, c'est ce qui... parce qu'ils lui disent que c'est vraiment particulièrement un requin extrêmement gros quand même.
Et je citerai espèce, hein. 7 mètres. 3 tonnes bien pesées. Et autre, la qualité du film, la maîtrise de Spielberg. Est-ce que le fait que le film soit sorti durant la période estivale a joué beaucoup quand même sur son succès? Parce que je veux quand même juste te rappeler, il est sorti dans les salles françaises en janvier 1976. Par contre, chez l'oncle Sam, c'était quand même le 20 juin 1975, donc début de l'été.
Ouais. Alors, ce qui est rigolo, c'est que oui, ça a amené les gens en salle. Par contre, les plages, elles ont pris un coup. Hein.
Justement, ça sera la transition avec les conséquences à ce moment-là. Mais ça a été une des conséquences du film, du succès de ce film. La peur de la baignade, la peur du requin sur les plages.
Ah, c'est un phénomène de fou. Hein,
qui est superbement déjà exprimé dans le film.
Complètement, ça c'est rigolo, il y a des trucs prémonitoires là-dessus.
Mais le nombre de terreurs, et ça a beaucoup aussi reproché au film que ça a donné... cette idée du requin mangeur d'hommes, que le requin tuait l'homme, oui. Limite par plaisir, mais qu'un requin s'attaquait à l'homme quoi qu'il arrivait. Surtout le grand blanc, du coup, c'est lui qui en a le plus pâti, alors qu'on avait eu des documentaires il y a quelques années. Et de mémoire, moi, c'est celui de Nicolas Hulot qui avait tourné pour Ushuaïa Nature, une baignade avec un grand blanc sans protection. Sans cage.
Ah mais bien sûr, c'est possible. Hein. Mais non, mais alors oui. Alors j'ai pas cette connaissance en requin après. Hein, mais je pense quand même dans le film, ils décrivent le requin comme il cherche pas à tuer de l'homme parce qu'il aime pas l'homme quoi. Il est juste, il avance, il mange quoi. C'est ce qu'ils expliquent là. Alors c'est juste que oui,
il fait. Mais de la façon dont est présenté le requin, ça reste un monstre.
Mais
quand
ça reste
même.
Un monstre par contre. Mais après voilà, on a quand même un point de vue terre à terre avec un océanographe qui arrive, qui nous donne des précisions. Scientifique sur le requin, donc qui cherche à le rationaliser quand même. Donc il y a quand même cet effort là, mais oui, le film a fait du mal à l'image du requin, ouais, de la même façon que on a fait du mal à l'image du loup à l'époque de Charles Perrault, etc., où le loup était culturellement un prédateur, et donc avec le requin il y a eu un peu de ça, parce que l'image du requin a pris un sale coup. La chasse au requin s'est considérablement augmenté à partir du film, si on veut parler des conséquences négatives. Ça vient pas que de Spielberg, hein, parce que le bouquin avait eu un énorme succès déjà.
Et surtout pour l'anecdote, Peter Benchley disait qu'il s'était inspiré d'un fait divers survenu au début des années 1910, il me semble, d'attaques de requins qui étaient assez impressionnantes. On est quand même face à un produit hollywoodien, parce qu'on va parler quand même d'une conséquence propre à ce genre de succès. Les franchises.
Aha.
Parce que Les Dents de la Mer, ok, on connaît tous le film de Spielberg, mais il faut rappeler que ce film a eu 3 suites. On a eu Les Dents de la Mer, deuxième partie. J'insiste sur le deuxième partie pour le titre français, parce qu'on va éviter un jeu de mots comme ça, c'est malheureux.
Close 2, je n'ai pas compris, Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer 2, d'accord, ok. Pardon.
C'est pour ça qu'en France, il faut dire Les Dents de la Mer, deuxième partie.
Ah oui, c'est vrai, j'avais fait attention. Tu vois.
Alors, bien sûr, Spielberg a lâché l'affaire, hein, cette fois-ci réalisé par Jeannot Swark.
Il le regrette un peu d'ailleurs, je vais venir dessus. Mais...
Je reviendrai aussi. Qui reprenait donc une partie du casting originel avec Roy Scheider parmi le trio de tête, et qui était sorti en 1978.
Ouais. Jeannot Swark, Cocorico, hein. Jeannot Swark, qui est un réalisateur français,
oui.
qui a réalisé Supergirl, le film Supergirl. Il a réalisé aussi La Revanche d'une blonde avec Marianne Chazelle, je crois, en film français.
Je crois qu'il avait fait un film aussi avec Christophe Lambert et avec deux chiens, j'ai plus le titre.
Hercule et Sherlock.
Je crois que c'est ça.
Donc pas un grand réal. Alors, moi, je suis très fan de la série qui s'appelle Cold Case, que je vous conseille, et il a réalisé un excellent épisode de Cold Case autour du monde des sourds, donc où sa réalisation est vraiment visible du coup à ce moment-là. Donc voilà, donc c'est plus un faiseur qui a fait des mauvaises choses. Mais dans la meilleure partie 2, où j'avais un très mauvais souvenir quand j'étais gamin, je l'ai revu là pour les besoins de l'émission. Franchement, ça va. Effectivement, tu me l'avais dit d'ailleurs avant, tu m'avais dit non, il est dans de la merde, franchement, moi je l'aime bien, ça va.
Franchement, il est sympa parce que c'est sûr, on va pas trop s'attarder non plus sur les suites et les critiques,
Mais on peut parler du deuxième parce qu'il reste dans la continuité du premier.
En termes de scénario, parce qu'on a un très bon travail psychologique et d'écriture sur le personnage de Brody, donc de Roy Scheider.
Ça m'a vraiment surpris.
Avec le côté post-traumatique par rapport au premier film. Et franchement, non, c'est un bon petit film de monstre qui se laisse voir sans déplaisir. Il a énormément de défauts quand même.
Oui. Parce que de rythme, beaucoup d'ailleurs.
En rythme, de mise en scène.
Ouais.
Et la partie avec les ados est un peu insupportable. Ils n'arrêtent pas de crier comme pas possible. Et tu sens que c'est vraiment le passage, que ce soit d'écriture ou de mise en scène, qui a été fait parce qu'il fallait un peu d'horreur, il fallait un peu d'action à ce moment-là.
L'Halloween ne sort pas encore, mais les slashers commencent à arriver. Hein. Mmh. Donc,
c'est l'époque.
Le film sort en 78. Halloween était sorti.
Un an avant.
Était sorti un an avant. Donc on était un peu sur la mode des ados qui se sont suicidés, qui arrivent. Quoi.
Ouais, Massacre à tronçonneuse était déjà sorti.
Était déjà sorti aussi, donc on était en plein là-dedans, donc effet de mode oblige, il y a ça. Après, je trouve qu'il y a des attaques de requins qui sont bien foutues quand même, quelques-unes. Notamment, je trouve qu'il y a une attaque sur entre la jeune blonde et le mec à lunettes là sur le bateau, et notamment après sa réaction. Enfin, il y a un truc où vraiment on la retrouve, où le shérif Brody la retrouve croquevillée sous le tableau de bord du bateau, et elle est paniquée, en pleurs et tout. Et ce moment-là, c'est un moment humain qui fonctionne vraiment bien, quoi. Oui. Et là, il se passe un truc. Là, on a compris que la menace revenait. Il y a quand même quelques moments qui arrivent à fonctionner en termes de mise en scène de terreur. Alors, très très loin de ce qu'a fait Spielberg, hein, vraiment.
Mais ça fait le café.
Mais ça va. On voit quand même la différence, parce que moi, je n'ai pas vu ce qui a été fait après, mais tu vas peut-être pouvoir m'en parler un petit peu. Mais c'est autre chose
alors,
après.
Je ne vais pas en parler on ne va pas trop s'attarder non plus sur les suites, parce qu'il y a d'autres conséquences aussi. Succès, mais je pense que tu seras d'accord avec moi si je dis que plus il y a eu de films dans la franchise, et d'ailleurs je vais le dire après, plus celle-ci elle s'est enfoncée dans les abysses de la médiocrité, qu'elle soit critique et de qualité, quoi. Et du coup, on poursuit avec en 1983, Les Dents de la Mer 3, ou en VO Jaws 3D, car le film était sorti en 3D.
Et on sent les années 80. Hein, ouais. Ça y est, on rentre dans les années 80, on sent le changement de décennie.
Ouais,
hein.
Comme quoi la 3D ne date pas d'hier.
Non, non. Non, mais par contre, la 3D était un peu démodée à ce moment-là. Hein.
Déjà,
y a eu des vagues à la 3D. La 3D a eu plusieurs vagues de popularité. Elle était un peu populaire dans les années 50-60. Et donc, c'était étrange le choix. Hein. Bizarre, hein, c'était bizarre parce que c'était pas la mode. ça a mis beaucoup de complications de tournage.
Pas qu'un peu. Réalisé alors du coup par, alors ça, je ne sais pas si je le prononce bien, Joe Alves. Mais il faut savoir déjà que pour Les Dents de la Mer 3, bah déjà il y a beaucoup de personnalités, qu'elles soient en tant qu'acteurs ou des techniciens des premiers films, qui n'ont pas du tout voulu revenir. Et là, il a eu un autre producteur à la tête, une personnalité qui venait de la télévision. Il a voulu faire un film à moindre coût, alors quand même on est face à un requin qui cette fois-ci s'attaque à un parc aquatique. Qui était quand même une petite originalité quelque part, mais on tombe sur un film qui a voulu balancer des effets spéciaux à l'appel avec beaucoup d'incrustations, de scènes sous-marines, parce qu'il y en avait dans les premiers films, mais pas autant que là. Pas autant, et on est avec un film qui n'a ni queue ni tête. Je me souviendrai toujours, s'il y a un défaut technique et de mise en scène qui est totalement immonde, c'est qu'on suit nos deux héros, donc un couple de plongeurs qui travaillent dans le parc, à un moment, faire une plongée avec leur masque respiratoire et tout, ils arrivent à parler comme s'ils étaient des talkie-walkie.
Ah ouais, d'accord.
La scène, elle dure longtemps comme ça. Mais par contre, là, je viens de dire une scène positive. Il y a quand même une scène en termes de mise en scène qui était sympathique, qui sortait de l'eau. C'est que sortait du lot. c'est une victime qui se fait happer par le requin et on voit se faire manger. La caméra, elle est à l'intérieur du requin.
Ah oui, c'est original, ça, effectivement.
C'est original. Mais on sent bien sûr les coupes budgétaires qu'a eu le film et les effets spéciaux, parce que sur le papier, ça avait l'air quand même assez dantesque, avec certains storyboards qui pouvaient être sympas, surtout avec le côté parc aquatique vraiment sous-marin, avec ses galeries qui pouvaient être un peu science-fiction en termes de direction. Mais ça,
après, on peut parler du money shot du film un peu, qui est quand même catastrophique. Le fameux plan où le fameux plan 3D, du coup, où le requin fonce sur une baie vitrée pour entrer.
Requin statique.
Et c'est incroyable, hein, c'est vraiment une image fixe. On parlait de requin en incrustation, là.
Justement.
Et là, du coup, le film est plongé dedans complètement, quoi. C'est pas mal vieilli, hein, c'était dégueulasse à l'époque, hein, déjà.
Déjà.
Hein,
ouais. Mais ce n'est rien face aux 4. Les Dents de la Mer, la revanche de Joseph Sergent et qui est sorti en 85. Avec Michael Caine.
Avec Sir Michael Caine.
Qui, la petite histoire, en a rien à faire de ce film. Il dit, bon, ça a payé ma villa.
Oui, il est acheté en villa en Angleterre.
J'ai eu des vacances aux Bahamas grâce au tournage de ce film.
Alors après, il y a eu des trucs chiants. Hein. Il a loupé, parce que le film a eu des complications de tournage. Le tournage a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Mais de toute façon, tous les tournages qui se passent en mer, c'est souvent ça, c'est souvent le cas de toute façon. Parce que le film se repasse vraiment en mer, là, pour le coup, le quatrième.
Et rappelle l'actrice Lorraine Gary, qui, depuis le 1 et le 2, était la compagne du personnage, qui est la compagne du producteur dans la vraie vie. Mais pour le film, c'est celle qui joue la femme de Brody, de Roy Schneider.
Mais Brody est mort, je crois, il me semble, hein, c'est ça, ils disent qu'il est mort.
Une crise cardiaque,
crois. C'est incroyable comment se débarrasser du personnage, parce qu'évidemment, Roy Schneider, qui n'avait pas envoyé l'état dans le 2, il a dit c'est mort, je reviendrai plus.
Il était revenu parce qu'il était sous contrat.
Il était sous contrat et qu'on il avait encore deux films à faire et il lui a dit si tu fais Les Dents de la Mer 2, on te libère. Donc il gagnait un film, quoi. Il pouvait se libérer plus tôt. Il l'a fait contre cœur, donc après, il n'y avait plus de raison qu'il soit à nouveau là. Mais du coup, Michael Caine, le pauvre, il a loupé son Oscar parce qu'il était aux Bahamas, du coup, et il a loupé un rôle. parce qu'il était pris pour un rôle, mais le tournage commençait alors que le tournage de Joe n'était pas terminé. Donc, il y a quand même des petites conséquences négatives là-dessus.
Et il faut savoir que pour l'ambition de ce quatrième film, c'était du coup le producteur, le patron, le président d'Universal, comme on disait, Lorraine Gary, qui est sa femme, à un moment, il cherchait quand même à remettre un peu sa femme sur le devant de la scène, parce que hormis Les Dents de la Mer 1 et 2, elle n'avait plus fait grand-chose à ce moment-là, il voulait la remettre au devant de la scène. On fait le film Les Dents de la Mer 4, ma chérie, c'est pour toi. En tout cas, Les Dents de la Mer 4, qui est parti déjà sur une mauvaise base, parce que c'était une histoire de requin vengeur, tout est déjà dans le titre, qui se venge de la famille Brody, parce qu'on ne l'a pas dit, mais depuis le 1, c'est toujours la même famille qui est sur le devant de la scène, et qui se font attaquer à chaque fois par des requins.
Pas toujours joué par les mêmes acteurs, mais, les enfants, par exemple.
Surtout les enfants. Voilà. Et là, ça aurait dû être un requin qui devait se venger des autres requins qui ont été tués dans les précédents films, et un requin qui aurait été, entre guillemets, dirigé par un sorcier vaudou. De base, c'était ça. Bon, l'histoire du vaudou, ils l'ont retiré.
Heureusement, c'est pour le mieux.
Mais on reste quand même sur le côté post-traumatique du personnage de Lauren Garry.
C'était la mode à l'époque.
On ne reviendra pas sur les autres films d'horreur. Mais on revient sur ce personnage qui est persuadé que le requin est venu se venger des autres. Et c'est tout ce qu'ils ont gardé. Et j'ai envie de dire que le film fait 1h20, je crois que déjà de tout le
1h30
film.
1h30 avec générique.
Voilà. Il y a deux attaques pendant tout le film. Le requin, on le voit quasiment pas. On peut toujours se moquer du requin factice du premier film. Bon, déjà, oui, il est factice, mais vu la mise en scène de Spielberg, il a énormément de cachets quand même, le requin. Là, ça se voit que c'est vraiment un bout de plastoc au bout d'un treuil. Et pour la petite anecdote, justement, il avait été diffusé, alors, je crois, par la BBC un temps à la télévision qui avait un certain format d'image. Et qui n'était pas le format cinéma à ce moment-là. Et quand ils ont fait à la format télévisuel, ça élargit les fameuses bandes noires. Mmh. Et quand le film a été diffusé, on voyait les treuils. On voyait le bras mécanique du requin. vous pouvez le retrouver sur YouTube, d'accord, la différence avec la sortie cinéma c'est et long. Plus tard DVD. Et cette diffusion, c'est immonde. Et ils ont diffusé le film comme ça. Mais voilà, Les Dents de la Mer, c'est vraiment une déchéance artistique, critique, où on retiendra vraiment le film.
Oui, et la saga s'est arrêtée. Je ne sais pas si vous voulez faire un cinquième opus.
À un moment, ouais. Il était peut-être question, on a eu un jeu vidéo. Et sinon, le succès des Dents de la Mer, je dirais que c'est aussi l'émergence des films d'animaux tueurs.
Oui. Ça ne se faisait pas en fait avant. J'ai regardé un petit peu ce qu'il pouvait y avoir en film d'animaux tueurs avant. Mmh. Et en fait, il n'y en a quasi pas. Hein. Et surtout des animaux réalistes. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de bestioles aussi. Avant, ça se faisait beaucoup les films de bestioles. Mais des animaux qui sont des animaux de la vie de tous les jours, qui attaquent, on peut parler des oiseaux, quelque part.
Hitchcock.
C'est vrai que Hitchcock, on peut dire que c'est peut-être un des premiers à l'avoir fait, avoir fait un des premiers films d'animaux tueurs. Avec des oiseaux, en plus, c'était pas forcément l'évidence.
C'était pas commun, non.
Non, c'est pas forcément...
Parce que là, pour le coup, c'est surtout les animaux évidents qui sont venus, parce que, bien sûr, des films de requins, il y en a eu à l'appel, les crocodiles, les araignées, les serpents... Et c'est surtout que, ce sont des studios hollywoodiens qui ont continué. Et bien sûr, ces films se sont adaptés avec les évolutions techniques, les effets spéciaux. Bien sûr, là, on parle des Dents de la Mer, mais là, en termes de films de requins, là, on est actuellement au cinéma avec la franchise The Meg. Ouais. Mais c'est vrai que les requins, ils ont continué aussi avec l'exploitation en VOD, vidéo à la demande, et tout ce qui est direct tout vidéo. Bon, bien sûr, les Sharknado.
Les Peurs Bleues.
Peur Bleue, enfin, le 1 était sorti au cinéma, mais les suites, oui.
Son héritier le plus connu, je pense que ça sera Piranha.
Oui, de Joe Dante.
De Joe Dante, qui aura une suite réalisée par ni plus ni moins que James Cameron.
Qu'il renie.
A raison, parce que au départ, c'était pas lui le réalisateur. Il était technicien sur le film, mais il s'est retrouvé réalisateur en plein milieu du tournage. La rumeur dit qu'il montait le film en cachette.
Dans sa manière, parce qu'il devait bien sûr se plié aux exigences du producteur.
Et Piranha qui aura récemment un revival, enfin récemment.
Ça a déjà
plus de 10 ans, mais bon, je l'ai vu au cinéma, donc je m'en souviens, avec le Piranha 3D
d'Alexandre Aja,
qui, pour le petit truc rigolo, c'est que, moi, je veux plus qu'un hommage, moi, je pense que c'est surtout pour dire on est sur un autre délire que Les Dents de la Mer. Parce que le film s'ouvre sur, je pense, le personnage de Richard Dreyfuss, parce qu'il est joué par Richard Dreyfuss. Il a le bonnet et il a quasiment les mêmes vêtements.
C'est vrai que ça pourrait être Hooper, le personnage de Hooper.
Ça peut être le personnage de Hooper qui se fait becter par les piranhas.
Bon, je sais pas s'il cherchera un requin, là, parce que c'est un spécialiste de requins, de base, le personnage.
Il est à l'art. Fred, il pêche à ce moment-là.
Il
pêche sur sa barque, hein, c'est tout ce qu'il fait. Donc on peut imaginer un. C'est Hooper, c'est ça le nom du perso?
Hooper, oui.
Que Hooper a pris sa retraite tranquille sur un petit lac, justement loin de la mer, parce qu'il a peur des requins. On peut s'imaginer. Enfin, il a peut-être la trouille des requins maintenant, depuis l'attaque. On peut s'imaginer ça. Et moi, je le vois surtout, on le bute pour dire. L'héritage des Dents de la Mer, oui, il est là, mais on va faire autre chose aussi. Donc, et le souci avec les Dents de la Mer, son héritage, c'est qu'à la fois, on a voulu reprendre le code, et en même temps, on a voulu faire très différent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film, je trouve, Piranha, le même de Joe Dante, c'est pas les Dents de la Mer, quoi. C'est pas la même chose. Hein. On est quand même, il y a un décalage plus proche, on est quand même moins... On est moins dans la gravité et plus dans le décalage et dans le recul quand même.
C'est un film qui se moque un petit peu des Dents de la Mer. Il est un peu vu, c'est pas une parodie, mais il peut être vu comme tel par certains.
Bah. Donc voilà, on a eu des héritages, mais jamais vraiment... L'esprit de l'homme de la mer sera jamais complètement repris, quoi.
Ni la qualité.
Non, ni la qualité, mais même dans les intentions, quoi. C'est-à-dire que dans ces films de grosses bestioles, les personnages seront toujours des casse-croûtes sur pattes, en fait, plutôt.
Bah, de la chair à canon, on n'aura plus, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, le côté humain des personnages, de l'histoire, on ne l'aura plus.
C'est ça, et ça, c'est un truc qui reste bizarrement qu'on n'a pas trouvé utile à mettre dans les films qui parlent de gros monstres, alors que l'homme de la mer a prouvé que si, c'était possible.
Voilà. Ou alors, quand ils essayent de le faire, ils reprennent ce qui a déjà été fait avant, tout simplement.
Oui.
Mais quand même, après tout ça, ça a permis quand même à Peter Benchley d'avoir des adaptations de ses romans également. Parce que Les Dents de la Mer, il n'a pas fait que ça. C'est bien évidemment le plus connu, et je ne pourrais pas trop vous citer les autres, parce que c'est vrai que... Mais pour vous dire, en film, on a eu quand même 4 autres adaptations. Pour lui, on a eu Les Grands Fonds, qui était sorti en 77, The Deep en VO, de Peter Yates, et avec... Tiens, Robert Shaw.
Ah.
Qui suivait un couple de plongeurs qui tombe sur un trésor et de la drogue. Et qui, pour le coup, va se retrouver menacé par la mafia locale. Donc on sort totalement du film de monstre.
Mais on est sur un film de sous-marin, quoi.
Enfin, on reste dans l'eau, ouais. Et pour la petite anecdote, c'est un film quand même qui a eu droit à un remake en 2005, qui s'appelle Bleu d'enfer.
Ah oui,
Paul Walker et Jessica Alba.
Que j'ai pas vu, hein, mais...
Moi non plus.
Mais d'accord.
Mais je me souviens surtout de l'affiche et de la pub.
Oui,
il y avait une sacrée promotion à ce moment-là.
C'était un film de vidéoclub, hein, vraiment. C'était
ça donnait cette impression.
C'était dans les vidéoclubs, et ça avait partie des films où il y avait les kakémonos dans les vidéoclubs, tu vois. C'était des films de ce style. Ouais.
En 1980, on a eu L'île sanglante de Michael Ritchie avec Retiens-tiens, Michael Caine.
Ah, bah...
Tout se recoupe, hein, qui était une sorte de relecture du triangle des Bermudes, donc des bateaux qui disparaissent, une petite enquête qui est menée, jusqu'à ce que l'enquête mène à une sorte d'île où vivent des pirates coincés à une époque. Donc les histoires de voyage dans le temps, propres toujours à la légende des triangles des Bermudes. C'est plus sous-marin, mais on reste quand même sur l'eau, quelque part. Et là, on va revenir quand même aux bestioles, parce que là, on quitte le cinéma, mais on a eu La Bête. Un téléfilm en deux parties qui était sorti en 1996, qui reprend exactement Les Dents de la Mer, hein, la même histoire de la bestiole qui attaque, le maire qui commence à s'inquiéter pour l'économie du coin. Mais du coup, le requin était remplacé par un calamar géant. Et j'en ai un bon souvenir de... Bien sûr, c'était des moyens télévisuels, mais je me souviens que le calamar était quand même impressionnant, visu.
Moi, tu vois, là, en réfléchissant, c'est pendant que tu me parlais, là, y a un film qui me vient, qui, en fait, si je dois parler de film de bestioles dans l'eau, qui, je pense, alors pas aussi bon qu'il est dans de la mer, mais qui se rapproche dans ce côté gravité présent et vraiment pas juste un film de bestioles qui bouffe des trucs et qui se veut un peu plus profond que ça, c'est The Bay de Barry Levinson.
Alors, c'est un tout autre style, mais oui.
On peut retrouver Les Dents de la Mer.
Très très bon ce film.
Ça se passe dans une station balnéaire aussi, une petite ville comme ça. On est aussi en plein fête locale, je crois, il me semble. Alors c'est un film en fin de footage, même peut-être fin de période de fin de footage d'ailleurs. Vraiment fin de footage d'ailleurs.
Je dirais au milieu, mais oui, j'allais te dire justement pas trop fin de footage parce que.
Plus en documentaire.
C'est ça, c'est un documentaire.
Un mockumentary, oui, en anglais. Oui.
Et pour finir sur Peter Benchley, il a également eu en adaptation un autre téléfilm en deux parties qui était. Tout simplement Créature, qui était sorti en 98. Et là, bon, bah, on a encore un requin, mais là, c'est plutôt un monstre hybride entre homme et requin. Et dernière conséquence du succès des Dents de la Mer, est-ce qu'on peut justement dire que Les Dents de la Mer a lancé la mode des blockbusters estivaux?
Complètement. C'est un peu Les Dents de la Mer qui est le premier film estival. Enfin voilà, ou en tout cas qui est pensé pour être un film d'été.
Parce qu'on en rigole, on peut en rigoler, parce que maintenant c'est le genre de film qu'on voit tous les étés, on en achète plus combien par été, mais Les Dents de la Mer était le premier. Je pense qu'il y avait aussi un réflexe de producteur de se dire, bah tiens, on a sorti un film à cette époque-là, les gens y sont venus en masse, donc ça va se réitérer pour un futur projet. Bien sûr, tout dépend de la qualité du projet.
Bah oui, mais ça, de toute façon, Les Dents de la Mer a lancé une logique de production qui est toujours la même encore aujourd'hui et qui a quand même énormément ses limites. Hein,
Et c'est d'où l'intérêt de notre émission. C'est vrai, on voulait vous parler d'essayer de comprendre pourquoi tel film avait été un succès ou un échec. Il y a quand même de l'intérêt à dire que ça a eu un impact sur le paysage hollywoodien, sur nos vies. On peut parler à grande échelle.
Ah oui,
et
puis,
il est dans de la merci prête pour le coup.
Et puis pour une simple raison aussi que ça a amené Spielberg. Moi, comme je te dis, c'est la carrière de Spielberg démarre à ce moment-là. C'est après.
C'est vrai que c'est notre conséquence, ça.
Bah oui, c'est-à-dire que vraiment, c'est pour ça que je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui serait passé si le requin marchait, parce que peut-être le film n'aurait pas été impactant et peut-être que Spielberg n'aurait pas une carrière qui aurait décollé et un cinéma hollywoodien sans Spielberg. Qu'est-ce que ça aurait changé ? Beaucoup de choses. Je sais pas, il y aurait peut-être eu des gens à sa place, je ne sais pas. Tu vois, peut-être qu'un Carpenter aurait mieux marché à côté et ça aurait été autre chose. Enfin voilà, donc même si Spielberg, je trouve que voilà, pour parler un peu de la suite de sa carrière après Les Dents de la Mer, qui sera longue, disons, ce n'est que le début de quelque chose, Les Dents de la Mer, il fera Rencontre du Troisième Type. Après, mais...
Toujours avec Richard Dreyfuss.
Mais quand même, sa carrière était encore un peu fragile, parce qu'après, il fera 1941, et ça ressemble pas à du Spielberg. Alors, ça ressemble pas mal à du John Landis. Après 1941,
Les Aventuriers de l'Arche Perdue.
Exactement. En fait, Spielberg, à ce moment-là, c'est un peu la merde, hein, après 1941. C'est-à-dire que son film marche pas. Et vraiment, s'il était pas copain avec Lucas, je sais pas si ça serait passé, parce que Lucas, lui, par contre, a connu un énorme succès avec un petit film de science-fiction qui s'appelle Star Wars. Je sais pas si vous connaissez. Et donc, il va penser à lui pour Indiana Jones, qui l'a. Et après, c'est un redécollage de carrière, un petit peu, quoi.
Et on va pas faire toute sa carrière, mais non. On va faire quand même son petit film d'après, E.T. Qui deviendra à ce moment-là le plus gros succès de tous les temps.
Et sa carrière, elle prend un peu un virage à ce moment-là. Si, remarque, avec Indiana Jones, c'est déjà un peu le cas. Mmh. Oui, c'est pas forcément palpable que l'image cinéma familier de Spielberg. Sera dominante quand on regarde ses premiers films, hein. Quand on regarde ses trois premiers films, Duel, Ce Garand Express et Les Dents de la Mer.
Non, c'est des genres différents.
On est sur du film de genre, hein, les trois. Hein. Ce Garand Express, on est sur du drame.
Du drame en mode road movie.
Road movie, il y a un peu d'humour aussi dedans quand même.
Après, on a quand même le film d'horreur avec Les Dents de la Mer, le film de science-fiction avec Les Rencontres du Troisième Type, qui est quand même assez dramatique.
Pour moi, Duel, on est aussi dans du film d'horreur, moi je trouve.
Thriller.
Ouais, mais
un peu horrifique. C'est vrai que le camion est présenté comme un monstre.
C'est ça. À mon sens, moi, les films d'horreur, c'est les films où le personnel et les spectateurs sont bloqués dans une situation d'horreur dans laquelle ils peuvent pas sortir. Pour moi, c'est ça qui définit un film d'horreur. Dans ma définition que je donne, en tout cas, d'un film d'horreur. Et Duel rentre dans cette catégorie, quoi. Que on se retrouve en face à un mal à laquelle on ne peut pas échapper, qui nous paraît presque surnaturel. Parce qu'même s'il donne une réponse, malheureusement, avec enfilement les bottes sortant d'un camion, mais il y a toute une idée où on pourrait s'imaginer que est-ce que ce camion il n'est pas vivant, quoi.
Et on parlait de l'affiliation avec les T-Rex, parce que justement quand le camion explose, il avait ajouté dans l'explosion un bruitage de rugissement de T-Rex de série B.
Oui, qui refera dans Les Dents de la Mer.
Quand le requin coule. Pour faire l'affiliation, justement.
Et ça qui est rigolo, c'est que quand il a fait duel, moi j'imagine, donc quand j'ai fait duel, j'imaginais un T-Rex qui courait après une voiture. Plan qui fera exactement dans Jurassic Park.
Et qui sera une référence. On revoit la scène encore dans Toy Story 2.
Oui.
Un autre style encore.
Effectivement, voilà, encore. Donc c'est rigolo comme, il y a des imageries qui lui étaient en tête dès le départ, en fait, qui se retrouvent plus tard dans sa film. Voilà.
C'est ainsi que se termine cette émission. Mais avant de conclure, nous aimerions faire un petit peu de promotion. Notamment pour le Ciné-Club de Vendôme, 41 images par seconde, dont nous faisons partie avec Colin. Une petite équipe fort sympathique, hein, j'ai envie de dire.
Oui, tout à fait. Que des gens qu'on aime bien.
Voilà. En off, on dira que du mal. Allez. Mais non, une équipe fort sympathique qui existe depuis un peu plus d'un an et qui propose des projections de films à Vendôme dans le cadre d'événements ou de collaborations avec d'autres associations. Et justement, si nous en parlons aujourd'hui, c'est pour vous faire part de la prochaine séance à l'occasion d'Halloween. Donc, pour le soir du 31 octobre, venez nous retrouver à la fabrique du docteur Faton pour assister à une séance terrifiante. Non, pas Les Dents de la Mer, hein, c'est pas parce qu'on en a parlé qu'on diffusera ce film, non, pour le coup. Mais plutôt un titre australien qui est sorti en 2014, Mr. Babadook, ou The Babadook en VO. Un film vraiment effrayant qui revient sur les peurs enfantines, réalisé par Jennifer Kent. Donc voilà, nous vous attendons à cette soirée du 31 octobre pour 20h30, 5€ la séance avec buvette et bien sûr on va s'amuser car, je vous en prie, venez déguiser, c'est évidemment mise, hein, c'est Halloween. Amusez-vous, sortez vos plus beaux costumes et venez être effrayés avec nous. Et sur ce, nous rendons l'antenne et nous vous donnons rendez-vous du coup dans un mois pour une émission spéciale de Déchiffrer des films. Notre première, bon c'est notre troisième émission, mais déjà notre première spéciale. On va pas vous en dire plus, ça sera la surprise. Et sur ce, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
À bientôt.
Ciao. Au revoir.